Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus le Christ selon le récit de Jean. Texte de la liturgie catholique romaine pour le deuxième dimanche du temps ordinaire. Le troisième jour, il y a une noce à Cana en Galilée. La mère de Jésus est là. Jésus aussi est invité et ses disciples à la noce. Le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit
« Ils n'ont plus de vin ».
Jésus lui dit
« Qu'est-ce de moi, toi ? Femme, mon heure n'est pas encore venue. »
Sa mère dit au servant
« Quoi qu'ils vous disent, faites-le. »
Il se trouve là six jarres de pierre destinées à la purification des Juifs et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit
« Remplissez d'eau les jarres. »
Ils les remplissent jusqu'en haut. Il leur dit
« Puisez maintenant et portez au maître du festin. »
Ils portent. Le maître du festin goûte l'eau devenue vin. Il ne sait pas d'où cela vient. Les servants le savent, eux qui ont puisé l'eau. Le maître du festin appelle l'époux et lui dit
« Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont enivrés, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. »
Tel est le commencement des signes que Jésus fait à Cana de Galilée.
Il manifeste sa gloire et ses disciples croient en lui. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Qu'est-ce qui peut motiver Jésus à rendre ce service bien matériel de trouver du vin pour une noce? Le fait vécu tel qu'il se présente dévoilera-t-il une autre réalité plus spirituelle?
Dans le récit évangélique de Jean, nous sommes au chapitre 2e. Au premier chapitre, l'évangéliste a rapporté le baptême de Jésus et le témoignage de Jean le Baptiste. « Moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est lui, l'élu de Dieu, l'agneau de Dieu. » Cela renvoie au texte d'Isaïe sur le serviteur de Dieu qui est comparé à un agneau au chapitre 53. « Voici mon serviteur, mon élu. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. » Les jours suivants, Jésus appelle ses premiers disciples, André, Simon-Pierre et Philippe. Lorsque Philippe annonce à Nathanaël qu'ils ont trouvé le Messie, il s'attire cette réplique de Nathanaël de Nazareth. « Peut-il sortir quelque chose de bon ?» Mais Jésus va rencontrer Nathanaël et ce dernier va pouvoir proclamer « Rabbi, c'est toi le roi d'Israël ». Jésus promet alors à Nathanaël qu'il verra des choses plus grandes. « Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme ». Tout au long de ce premier chapitre, on a donc donné de nombreux titres à Jésus. « Rabbi, Messie roi d'Israël, Fils ». Fils de Dieu, élu de Dieu, agneau de Dieu. Jésus semble ne retenir qu'un seul titre et c'est un autre titre, Fils de l'homme. Ce titre fait sans doute référence au livre de Daniel où le Fils de l'homme, qui est le représentant du peuple des fils de Dieu, reçoit du Père la gloire divine. Tout au long de la vie de Jésus, ce thème de la glorification du Fils de l'homme va s'approfondir. Il sera ce Fils de l'homme, notamment celui qui donne la vie de Dieu par son enseignement.
Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, qui est Dieu, a marqué de son sceau.
Le deuxième chapitre va relater l'action de Jésus lors d'une noce à Cana et ensuite celle qu'il fera avec éclat à Jérusalem, où il veut purifier le temple, car on sait que dans le récit de Jean, la purification du temple se trouve au chapitre 2e et non pas, comme dans les synoptiques, à la fin de la vie de Jésus. Ces gestes vont être appelés par l'évangéliste des signes.
Tel est le commencement des signes que Jésus fait à Cana de Galilée. Il manifeste sa gloire et ses disciples croient en lui. Beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il opérait.
Ce que les autres évangélistes appellent miracle est habituellement donc désigné par Jean comme signe. C'est que le rôle des actions de Jésus n'est pas d'étonner par quelques prodiges défiant les lois de la nature, mais plutôt de révéler qui est Jésus et quelle est sa mission. On peut comparer d'ailleurs certains signes de Jésus aux gestes des prophètes, ainsi oser à épouser une prostituée pour signifier que Dieu aime encore son peuple malgré son infidélité, malgré son adultère, puisque ce peuple se prostitue avec des faux dieux. Jésus se plaindra souvent que les gens restent au phénomène extérieur et matériel de ces signes sans en saisir le sens profond et spirituel.
Amen, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété.
Cela nous invite donc à tenter de comprendre le signe qui est donné lors des noces de Cana. La tradition liturgique, sous l'influence de l'Orient, a considéré cette action de Cana comme une épiphanie. On sait que le mot épiphanie vient d'un mot grec qui signifie manifestation, révélation. Le titre d'épiphanie a bien sûr été donné d'abord à la venue des mages. Mais en Orient, dès le IVe siècle et en Occident à partir du VIIe siècle, la liturgie a rassemblé trois manifestations, trois épiphanies de la gloire du Christ. C'est la visite des mages, mais aussi les noces de Cana et le baptême.
Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages à la crèche. Aujourd'hui, à partir de l'eau, le vin a été produit pour les noces. Aujourd'hui, le Christ a voulu être baptisé par Jean dans le Jourdain.
Oui, telle est l'antienne du Magnificat de la fête de l'Épiphanie. Eh bien, la question qui nous est posée devient donc, à Cana, de quelle épiphanie s'agit-il ?
De quoi ce récit est-il le signe ?
Eh bien, pour le comprendre, il faut nous rappeler le sens symbolique des nombreuses images qui sont utilisées ici. Sens symbolique que les récits bibliques nous font connaître. En effet, notre tentation, rappelons-le, est toujours de donner d'abord priorité aux faits matériels, aux détails historiques. On se pose la question, comment Jésus a-t-il fait pour changer l'eau en vin? Pourquoi le marié n'avait plus de vin? Ces gens-là étaient-ils des pauvres que Jésus a voulu aider? Mais il ne faut jamais imaginer les choses que l'Évangile ne dit pas. Il faut au contraire scruter le sens de tout ce qui est dit et le comprendre à l'aide de ce que nous connaissons du sens symbolique des images employées. Alors d'abord, le sens symbolique des noces. Tout au long de la Bible, l'image des noces est utilisée pour décrire les liens de communion que Dieu veut tisser avec l'humanité. Dieu est appelé l'époux de son peuple. On trouve cette image déjà chez le prophète Osée.
Il adviendra en ce jour que tu m'appelleras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur Dieu.
Le prophète Jérémie va lui aussi rappeler les amours de Dieu et de son peuple.
Ainsi parle Dieu. Je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles. Tu me suivais au désert, sur la terre qui n'est pas ensemencée.
Ézéchiel, le prophète, comparera Israël, qui ne vit pas selon la Torah, selon la règle de Dieu, à une épouse infidèle. Mais il dit que Dieu va refaire l'alliance.
Moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi au jour de ta jeunesse. J'établirai avec toi une alliance éternelle.
Et on retrouve la même promesse chez le prophète Isaïe.
Ton Créateur est ton époux, le Seigneur Dieu est son nom. Un court instant, je t'avais délaissé, dit ton Dieu. Ému d'une immense compassion, je vais t'unir à moi. Le Seigneur Dieu trouvera en toi son plaisir et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse sa fiancée, ton Créateur t'épousera. Et de la joie de l'époux pour sa promise, ton Dieu sera enthousiasmé pour toi.
Ce sont des textes superbes et qu'il nous faut relire pendant le temps de l'Avent. Beaucoup de Juifs attendent donc que la venue du Messie accomplisse cette espérance des prophètes, espérance que l'Alliance sera renouvelée par la conversion des cœurs et des vies. En effet, la situation politique d'Israël, à l'époque, c'est que le pays est occupé par les forces romaines, et cela est interprété comme un châtiment de Dieu parce qu'Israël a négligé la règle de Dieu, la Torah. Plus tard, la méditation des sages va intérioriser cette image de l'époux. En effet, la sagesse de Dieu est personnalisée comme étant la fille de Dieu, et Dieu donne cette sagesse, sa fille, à Israël pour qu'elle soit son épouse.
Seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de sa sagesse. C'est elle que j'ai aimée et recherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché en enfer mon épouse et je suis devenu l'amant de sa beauté.
Et le roi Messie, qui est le roi qui représente le roi des cieux, sera vu comme le lieutenant de Dieu et donc rempli de la sagesse divine. Et ainsi, ce roi Messie sera lui aussi comparé à être l'époux du peuple de Dieu, puisqu'il va représenter le seul véritable époux du peuple qui est Dieu lui-même. Et on va trouver écho de cela dans les évangiles, ainsi dans la bouche de Jean le Baptiste.
Je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et l'entend se réjouit de joie à la voix de l'époux. Cette joie est mienne en plénitude. Lui doit croître et moi diminuer.
Jésus lui-même se nomme ainsi en réponse à une critique des pharisiens qui se plaignent de ce que les disciples, ses disciples, ne font pas de jeûne fréquent.
Pouvez-vous faire jeûner les compagnons de noces pendant que l'époux est avec eux?
Voilà donc pour l'image des noces et de l'époux. Il y a une autre image importante à comprendre pour notre récit, c'est l'image du vin. La Bible dit que le vin coulera en abondance au jour de la restauration de l'Alliance. Ce jour-là, les montagnes dégoutteront de vin nouveau, dit le prophète Joël. Et Isaïe décrit cette fête comme le rassemblement de tous les peuples autour d'Israël.
Le Seigneur va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viande grasse et de vin vieux.
Dans le livre des Proverbes, le vin est le symbole de l'enseignement de la sagesse de Dieu.
Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé pour vous. Abandonnez la sottise et vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence.
Et Jésus comparera son enseignement à du vin nouveau.
Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Qu'on mette vin nouveau dans des outres neuves.
Ce vin nouveau, c'est celui de l'enseignement de Jésus qui est la parole de sagesse divine. Eh bien, avec ces sens symboliques des noces, de l'époux et du vin, nous voilà maintenant conscients des images qui nourrissaient l'imaginaire des auditeurs de Jésus. Et c'est sur ce fond de tableau que nous allons pouvoir aborder le récit de Cana.
Pour le troisième jour, il y eut une noce.
Dans la Bible, l'expression « troisième jour » marque les grands événements qui tissent la relation de Dieu et de son peuple. Ainsi, nous le retrouvons au chapitre 19 de l'Exode, au Sinaï.
Le Seigneur dit à Moïse, « Voici, je vais arriver jusqu'à toi dans l'épaisseur de la nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi et quand toi aussi il mette sa foi à jamais. » Va vers le peuple et sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il soit prêt pour le troisième jour. Car c'est au troisième jour que le Seigneur descendra sur le mont Sinaï aux yeux de tout le peuple.
On peut faire un lien avec la finale du premier chapitre de Jean, où Jésus promet à Nathanaël qu'il verra le Fils de l'homme en communication avec le ciel, c'est-à-dire avec Dieu.
La mère de Jésus est là. Jésus aussi est invité, et ses disciples, à la noce.
Dans ces quelques mots, on voit que Jésus se détache, c'est lui qui va être le personnage important. Mais remarquons que Jean ne nomme pas Marie, il parle de la mère de Jésus. Dans le récit évangélique de Jean, nous ne retrouverons d'ailleurs Marie qu'au pied de la croix. Et à cette heure, elle recevra Jean comme son fils. Peut-être pouvons-nous comprendre qu'à Cana, Marie, qui a enfanté Jésus, va maintenant l'enfanter comme le Messie. Et à la croix, elle aura enfanté les disciples de Jésus, dont elle deviendra la mère.
Jésus, voyant la mère et tout près le disciple qu'il aimait, dit à la mère, « Femme, voici ton fils. »
On remarque encore qu'en ce dernier texte, Jésus parle de la mère et non pas de sa mère. Désormais, Marie n'est plus la mère de Jésus, ce rôle historique s'efface devant le rôle d'enfanter les disciples de Jésus tout au long de l'histoire. Cette femme, qui a été indispensable pour la naissance de l'homme-Dieu, se sera d'ailleurs faite toute discrète durant toute la vie publique de son fils.
Le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ».
Marie souligne le manque de vin. Eh bien, nous devons sans doute le comprendre avant tout en son sens symbolique. Elle met son fils en présence de la détresse actuelle d'Israël. Israël, dont Jésus dira qu'il est comme un peuple sans pasteur, sans nourriture. La mère, ou encore Israël qu'elle représente, déclare le manque où se trouvent ses enfants. Ce vin qui manque, c'est le don de la sagesse de Dieu.
Femme, mon heure n'est pas encore venue.
Femme, l'expression peut paraître surprenante dans la bouche de Jésus, car il aurait dû normalement appeler Marie Imma, qui correspond à Abba, papa. Nous avons vu déjà que son nom propre Marie n'est pas mentionné. Alors faut-il y voir une volonté de Jésus de marquer sa distance? Mais redisons que les récits évangéliques ne se situent pas à un niveau psychologique. Dans ce récit, où jamais la mariée n'apparaît, la distance est sans doute indiquée pour noter que Marie représente le nouveau peuple de Dieu. Il s'agit de mettre en lumière le rôle important de Marie dans ce projet de Dieu que Jésus réalise. Il le soulignera plusieurs fois d'ailleurs dans les autres récits évangéliques. Et lorsque Jésus déclare que sa mère et ses frères sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la parole de Dieu, eh bien, cela n'exclut pas que Marie soit celle qui a écouté et pratiqué la parole à la perfection.
Qu'est-ce que de moi à toi ?
Qu'est-ce de moi à toi ? Littéralement, l'expression se traduit ainsi. Qu'y a-t-il pour toi et pour moi ? Ou encore, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Cette façon d'interroger se retrouve dans les Écritures, soit pour mettre en question le lien entre les deux interlocuteurs, soit pour indiquer que les deux interlocuteurs ne sont pas sur la même longueur d'onde. Eh bien ici, les spécialistes des évangiles sont tous hésitants sur le sens à donner à cette phrase. Jésus veut-il souligner qu'il ne s'agit pas pour lui simplement de vin, mais au contraire de la sagesse de Dieu qui manque, cette sagesse de Dieu dont les fils de Dieu, que sont Israël, se sont tellement éloignés. Eh bien, cette sagesse, la voilà maintenant présente dans la personne de Jésus, le Fils bien-aimé du Père.
Mon heure n'est pas encore venue.
Les traductions donnent deux versions, deux traductions. L'une négative, l'autre interrogative. Et les deux sont possibles grammaticalement. L'exégète Xavier Léon Dufour justifie, lui, la forme interrogative en notant que la suite du récit ne s'accommode guère d'un sens négatif. En effet, comment la mère de Jésus aurait-elle pu, après un refus catégorique, s'adresser aux servants pour qu'ils exécutent ce que Jésus viendrait à leur dire? Le mot « heure » désigne généralement dans l'Évangile le moment où va s'accomplir le dessein de Dieu. Pour Jésus, son heure s'accomplira lors de sa mort et de sa résurrection. Cette heure, d'ailleurs, marque le passage dans la plénitude de la vie divine.
Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, je vous le dis. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance.
L'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié, la glorification, c'est l'intense manifestation de la vie divine en Jésus. Une vie jaillissante d'amour et de lumière parce qu'il est en communion avec son Père. Et cette heure est donc celle de l'aboutissement du don d'amour que Jésus fait de lui-même. Elle s'exprimera au soir de la scène lorsque Jésus va laver les pieds de ses disciples, parce que ce geste sera justement le geste ultime de l'amour et du pardon.
Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême.
Alors en cette heure de Cana, Jésus s'engage résolument dans sa mission. Désormais, il va donner en abondance le vin de la sagesse divine.
Sa mère dit au servant, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. »
Cet ordre peut nous ramener au texte de la rencontre de Dieu et de Moïse au Sinaï dont nous avons parlé tout à l'heure. Après que Moïse a énuméré les conditions de l'alliance, le peuple accepte en disant « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. » Cette invitation au servant doit donc s'entendre bien au-delà des consignes pratiques qui vont suivre. Il s'agit avant tout de l'écoute de la parole de Dieu, cette parole qui va se dire parfaitement en Jésus.
Je dis ce que le Père m'a enseigné. Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Il se trouve là 6 jarres de pierre destinées à la purification des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures.
Une mesure contient environ 10 litres. Il s'agit donc d'une quantité considérable d'eau qui est utilisée pour le rituel des ablutions. Et Marc décrit ainsi cette observance.
En effet, les pharisiens, comme tous les Juifs, ne mangent pas sans être lavés soigneusement, par attachement à la tradition des anciens. En revenant du marché, il ne mange pas sans avoir fait des ablutions.
Il peut paraître intéressant que Jésus utilise les jarres des purifications. Il ne devait pas en effet manquer de cruches pour le vin, puisque celles-ci avaient été vidées par les convives. Alors cela confirme le sens symbolique qui est sans doute le vrai sens du récit. Les jarres d'eau, c'est tout le rituel d'observance légale, les purifications. Et elles représentent aux yeux de Jésus une coutume qui doit être dépassée. Ces jarres sont en effet au nombre de 6. 6 et 7 moins 1, et c'est donc l'imperfection, puisque le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. En effet, ces rites de purification pour Jésus ne peuvent nous donner l'accès auprès du Père. Pourquoi ? Mais parce que, par ses seules forces humaines, l'être humain ne peut pas vivre parfaitement selon la Torah, la règle de Dieu. L'apôtre Paul le dira. La Torah, en nous disant ce qu'il faut faire, ne fait que nous révéler notre pauvreté de pécheur.
La Torah ne fait que donner la connaissance du péché. En effet, nous savons que la Torah est spirituelle. Mais moi, je suis un être de chair vendu au pouvoir du péché. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. Malheureux homme que je suis! Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Grâce soit à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur.
La Torah, en effet, ne peut donc nous donner la force d'accomplir les préceptes de Dieu. Bien des prophètes d'Israël avaient déjà dit la même chose. Dieu devra donner son esprit et le mettre dans le cœur de son fidèle pour qu'il puisse agir selon la Torah. Écoutons Jérémie.
Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, parole du Seigneur. Je mettrai ma Torah au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. Alors, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple.
Et avec Jésus, voici qu'un homme de notre humanité est pleinement envahi, inspiré par l'Esprit divin, parfaitement obéissant à cette Torah et il nous apporte cette grâce, cet amour, qui va nous rendre capables de vivre en vérité selon la Torah, selon la volonté du Père. C'est ce que dit le prologue de Jean.
La Torah a été donnée par Moïse, mais l'amour et la vérité arrivent par Jésus.
Jésus inaugure une nouvelle alliance, une communion intense entre le Père et l'être humain, qui se réalise non plus dans la seule obéissance aux préceptes de la Torah, mais dans l'union avec lui, dans la communion en sa personne. Sa parole de sagesse est vraiment le vin nouveau de l'alliance, d'une alliance entre Dieu et l'humanité qui est renouvelée dans la personne même de Jésus.
Le maître du festin goûte l'eau devenue vin. Il ne sait pas d'où cela vient. Les servants le savent, eux qui ont puisé l'eau. Le maître du festin appelle les pots et lui dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont enivrés, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. »
Le maître du repas ainsi que le marié semble incapable d'accueillir la nouveauté qui se donne en Jésus. En effet, le maître du repas ignore la provenance du bon vin. Alors qui est ce maître du repas? Peut-être est-il le symbole des scribes et des autorités religieuses de l'époque qui méconnaîtront l'origine divine de l'enseignement de Jésus. Lors du dernier repas, le vin sera en effet celui de la nouvelle alliance.
Il prit une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » Tel est le commencement des signes que Jésus fait à Cana de Galilée. Il manifeste sa gloire et ses disciples croient en lui.
Le signe de Cana n'est que le commencement des signes. Le miracle de l'eau devenue vin prendra toute sa dimension dans l'ensemble de la vie du Christ. Jésus sera la Torah vivante, la parole spirituelle qui fait vivre de vie d'éternité. Je suis le pain de vie. Il sera celui qui nous fera découvrir la vérité de notre vie. Je suis la lumière du monde. Il sera celui qui, par son pardon, nous fera passer de la mort spirituelle à la renaissance. Je suis la résurrection et la vie. Devenir disciple, ce sera donc accueillir ces signes, connaître la grâce d'être en amitié avec Jésus, en buvant au vin de sa sagesse, pour naître à notre vie divine de fils et filles de Dieu. Voilà la fête de l'Alliance, voilà la noce à laquelle le disciple est quotidiennement convié.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Vous pouvez vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an au feuillet ou aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.